Bonjour à tous. Et merci à toute l'équipe de Louange. On leur donne une main d'appréciation, hein? Merci beaucoup. Quel bon temps de Louange. Eh bien, un autre pionnier vient de nous quitter, un pionnier au Québec qui a travaillé très fort pour implanter, lui et son épouse, des églises au Québec, John Gazdick. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il vient de décéder à l'âge de 87 ans. Et il a implanté des églises comme à Shawinigan, à différents endroits. Il a été plusieurs années à l'église de Chauveau, à Québec. Et puis, tout un témoignage. Il était mon professeur, c'est un de mes mentors, un des professeurs que j'ai eu comme prédicateur sur la prédication. Et puis, si vous voulez entendre son témoignage, c'est long. Je vous dis, c'est 8 heures de temps. C'est coupé en 15 minutes sur l'Internet. C'est gratuit. On pourrait mettre peut-être l'adresse au kiosque ou peut-être vous pourriez donner votre nom, si jamais votre courriel, si jamais vous n'êtes pas certain de faire partie de la liste des courriels qu'on envoie grandir ensemble. Ça, c'est vraiment là, comme la lettre officielle qu'on envoie à tout le monde. Il y a des nouveaux régulièrement et peut-être que votre nom, votre courriel n'est pas là. Faites juste donner votre nom et courriel. Mettez grandir ensemble sur le papier au kiosque. On va vous ajouter dans la liste d'envoi. On n'abuse pas, on fait attention. C'est surtout des nouvelles importantes là, qu'on envoie. Et il a donné son témoignage dans ce 8 heures de temps. Puis, je vous dis, là, c'est tellement édifiant. Il a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont essayé de le tuer. Il y avait des balles, là, pareil comme dans un film. Là, il courait, puis il y avait des balles là, qui circulaient. Je me souviens plus des détails, mais... Je vous dis, c'est tout un témoignage. Vous allez être édifié par son témoignage, comment il est venu au Seigneur et comment c'était long avant qu'il vienne au Seigneur. Il était vraiment... En tout cas, je ne veux pas vous divulguer du secret. Je veux vous garder la surprise. Alors, écoutez, donnez l'occasion. Donnez-vous ce beau cadeau-là d'écouter ce témoignage-là. C'est vraiment bien. Eh bien, on a eu une belle réunion d'affaires dimanche dernier, si jamais vous étiez là ou pas. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pu venir. D'autres travaillent, on comprend ça, d'autres ne pouvaient pas venir, mais pour ceux qui étaient là, on veut vous remercier d'être venus. On a eu une belle réunion, on entend des beaux témoignages, les gens nous disent comment c'était édifiant, et puis effectivement, c'était vraiment une belle soirée, beau témoignage. Ça nous a permis on a pu voir aussi les ministères dans l'Église, et on veut remercier, hein, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, ça travaille tellement fort. Donc merci à tous ceux qui servent le Seigneur à quelque part dans l'Église. Moi, j'aimerais commencer avec un sondage, et là, je vais m'adresser particulièrement aux célibataires, et peut-être même que vous préparez à vous marier, mais ça fait rien, agissez, répondez comme si c'était, vous êtes encore des célibataires, donc gars et filles, d'accord? Gars et filles. Quel est, à part du fait qu'il aime le Seigneur et tout ça, là, d'accord? À part de ça, après ça, quelle serait la plus grande qualité que vous rechercheriez si vous étiez pour vous marier? En d'autres mots, quelle qualité recherchez-vous pour un futur conjoint? Alors, quelle est la plus grande qualité que vous cherchez? Pour vous, là, c'est la plus importante de toutes les qualités. Alors, que ce soit des gars ou des filles. J'aimerais entendre des nouvelles. Alors, c'est quoi la plus grande qualité? OK. Mais à part cette dimension spirituelle. Oui, comme lui, un beau modèle. Tiens, on va, c'est un modèle, d'accord. D'autres? Comment? La bonté, l'honnêteté, oui, tu vas avoir quelqu'un d'honnête, ça c'est vrai, ça c'est très bon. D'autres? Loyal, oui, c'est vrai. Enfin, on a un homme là, qui est courageux. Y a-t-il d'autres hommes qui sont courageux de l'autre côté? Là? Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce bout-là? La tolérance, être tolérant. Quoi d'autre? Un dernier? La patience, un de deux. Comment? Oui, ça c'est vrai, on est capable de pardonner. Responsable. OK, on en a pas mal. C'est bien. Ben écoutez, un sondage a été mené à travers le monde. Hey, c'est gros sondage. C'est rare qu'ils font un sondage si poussé que ça, à travers le monde, à travers 37 cultures différentes et auprès de 16 000 personnes. Et devinez quelle est la qualité qui revient le plus souvent, la qualité la plus importante qu'on recherche pour le prochain conjoint. C'est quoi? La bonté. La bonté. Je pense que c'est Nathalie. Oui, ton prix va t'attendre au kiosque à la fin. La bonté. Hey, c'est pas pour rien que 1000 ans avant Jésus-Christ. Là, on parle de 3000 ans passés, déjà dans le livre de Proverbes, ça disait, dans Proverbes 19, 22, ça disait, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » D'accord? Déjà dans la Bible. Et on apprend dans la Bible que c'est l'une des qualités que Dieu veut produit et continue de produire, et veut continuer à produire en chacun d'entre nous. La Bible dit que la bonté est un des éléments, l'une des qualités du fruit de l'esprit. Dieu veut produire en nous des qualités afin qu'on atteigne notre plein potentiel et on devienne tout ce qu'on peut devenir. Il veut reproduire l'image de Jésus-Christ en nous parce que Jésus-Christ avait ces qualités-là à la perfection, à l'excellence. Alors, Galates 5, 22, on a commencé une série sur le fruit de l'esprit. Oups. Et on dit dans Galates 5, 22, ça dit ceci, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. » Maintenant, c'est quoi la bonté? Quelle est la différence entre la bonté et de l'amour, par exemple? Eh bien, on va regarder ça. Un des lexiques les plus réputés en ce moment dans le monde, pour les mots originaux du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, mais particulièrement le Nouveau Testament surtout, ça s'appelle le bidag, c'est juste, en fond, c'est une abréviation. Et voici comment on donne la définition ici de la bonté. On dit, c'est une qualité morale positive, fortement caractérisée par le souci du bien-être des autres. D'accord? C'est une disposition généreuse à s'intéresser et à se dévouer au bien-être des autres. D'autres définitions, c'est le dévouement généreux à contribuer au bien d'autrui. C'est la pratique de l'amour bienveillant. C'est une bienveillance affectueuse. Alors, on remarque ici l'accent qu'on va mettre, que toutes ces définitions donnent, ce côté pratique. C'est vraiment tendre la main à l'autre pour lui venir en aide. D'ailleurs, les traducteurs ont bien capturé cette idée du mot original. Dans la version, par exemple, du français courant, la Bible français courant, voici comment les traducteurs l'ont traduit. Mais ce que l'Esprit-Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bienveillance. Dans la Bible de Jérusalem, voici ce que nous lisons. C'est le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité. Alors, tout de suite, voyez comment le mot choisi ici traduit ce concept de venir en aide aux autres, de répondre à des besoins. C'est très concret et pratique. La bonté, c'est poser des gestes d'amour. C'est faire quelque chose pour quelqu'un par amour pour lui. Pour avoir une meilleure idée, pour comprendre ce que l'on entend par ça et les implications pour chacun d'entre nous, on va tourner dans un passage qui se trouve dans 1 Jean, si vous voulez bien. Et on va lire 1 Jean chapitre 3 et à partir du verset 16. On va lire 1-3, 16 jusqu'à 20. Mais juste avant, laissez-moi prier que Dieu puisse bénir notre temps ensemble. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier tout d'abord, car toi, tu as déjà démontré la plus grande bonté en envoyant ton propre Fils. Nous prions que ton esprit, ce matin, puisse nous accompagner, nous illuminer, nous aider à comprendre ce que tu entends par la bonté, ce que tu t'attends de nous, et comment nous pouvons te remercier, être reconnaissants pour tout ce que tu as fait, et ces gestes de bonté que tu as démontrés à notre endroit, comment nous pouvons le rendre aux autres. Nous prions, nous en profitons pour prier également pour la famille Gazdic. Je parle à Mme Gazdic et sa famille, des enfants, que tu puisses les bénir en ce moment, cette semaine surtout, alors qu'ils viennent de perdre leur papa. Veuille bénir la famille et les accompagner à travers ces prochains jours de deuil qui sont difficiles. Merci parce que M. Gazdic a été vraiment un beau témoignage à travers toute la province et ailleurs. Et quel beau ministère à travers toute sa vie. Des milliers de personnes sont venues à toi à travers lui, à travers ce frère. Et je te remercie pour ce beau témoignage que tu nous as envoyé. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 3, et on commence au verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Dieu connaît tout. Maintenant, ce passage est pas mal fort. Jean est en train de nous dire que l'une des marques d'un chrétien authentique, c'est que son amour s'exprime par des œuvres de bienveillance, des œuvres de gentillesse, de bonté, et particulièrement envers ceux qui sont dans le besoin, des personnes démunies, des personnes qui ont de la difficulté, soit monétaire, matérielle, physique ou économique. Par là, nous saurons, un verset très fort, par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Imaginez. Et c'est pas seulement ici. Nous voyons dans d'autres passages que l'une des façons de savoir si nous avons vraiment compris l'Évangile, si l'Évangile nous a saisis, si nous avons été transformés par l'Évangile, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, que nous sommes un disciple de Jésus-Christ, c'est que nous avons à cœur les personnes qui sont dans le besoin. C'est un thème important dans la Bible. Ici, il est question de soucis sociaux, de responsabilité sociale. La bonté n'est pas seulement d'avoir des sentiments envers les autres, mais c'est vraiment ici d'avoir à cœur les gens, au point de faire quelque chose, d'être généreux, de poser un geste concret pour leur venir en aide. C'est une générosité qui est pratique. Ça coûte quelque chose. C'est une aide qui va prendre de notre temps, nos talents, notre argent même, parce qu'on a les autres à cœur. C'est d'avoir de la considération pour les autres. Vous savez, on est prêt à dépenser de l'argent pour rénover nos maisons. On est prêt à mettre 1 000 $, 2 000, peut-être même beaucoup plus dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'une maison, ça a de la valeur. On ne mettrait jamais 1 000 $ à réparer une petite montre qu'on a achetée au dépanneur pour 20 $. Et la raison est bien simple, c'est que ça ne vaut pas 1 000 $. Et c'est le point. Lorsque la Bible parle de la bonté, ça parle d'une attitude. C'est l'attitude qui considère les êtres humains comme si précieux que rien n'est trop cher pour eux autres, pour les aider. Tu es prêt à y mettre ton temps, ton argent, tes talents pour venir en aide aux autres. Le verset 17, regardez ce que le verset 17 dit. « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » Alors, c'est quoi le contraire de la bonté? C'est l'avarice. La cupidité, l'amour du gain. Et la raison, c'est bien simple, c'est que la bonté, c'est la générosité. La bonté est d'abord et avant tout un ministère d'entraide. Et c'est nécessaire. La bonté, c'est d'avoir la disposition de rencontrer toutes sortes de besoins, différents besoins. Laissez-moi vous présenter un graphique. C'est le cercle concentrique. Voici des cercles. Ce sont des cercles qui partagent le même centre, mais qui ne disposent pas nécessairement le même diamètre. La Bible dit que tous nos problèmes viennent du péché. Il n'y aurait pas de misère dans le monde si ce n'était pas du péché. Mais ça ne veut pas dire lorsqu'une personne tombe malade, c'est parce qu'elle a du péché dans sa vie nécessairement. Mais ce que ça veut dire, c'est que la maladie est entrée dans le monde à cause du péché. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3. Voyez-vous, les trois premiers chapitres du livre de la Genèse nous racontent la création. Et la création de la nature, la création de l'homme, Adam et Ève, et ça nous rapporte aussi la chute de l'homme, d'Adam et Ève, la chute lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont décidé de prendre leur vie en main, le contrôle de leur vie, d'être maître de leur vie, et de tasser Dieu de l'équation. Ce que nous avons dans Genèse 3 est une description très claire comment tous nos problèmes relève du fait qu'Adam et Ève ont voulu être leur propre Dieu, enfin. Ils ont voulu être leur propre maître. C'est comme si tu prends une grosse pierre qui vient de tomber dans notre âme. Ça fait des secousses. Avant, il y avait le calme, et tout d'un coup, tout est chambardé. C'est comme si notre âme était comme un bel étang limpide et calme, et voilà qu'une grosse pierre vient de tomber sur l'étang, et ce qui crée des cercles, des remous, ça crée des impacts, des incidences sur différents domaines, d'où cette image des cercles. Et le péché nous détériore, brise l'harmonie qu'on avait avant la chute, avant le péché. Le péché va nous détériorer à quatre niveaux. Ça a un impact sur nous à quatre niveaux. Premièrement, une détérioration spirituelle. C'est celle qui est la plus importante. Le plus gros impact que ça a eu, c'est de nous avoir brisés, séparés d'avec Dieu. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu parce qu'on s'est tourné le dos à Dieu. On a péché, on n'a pas fait sa volonté, on s'est tourné le dos. Et à cause de cela, il y a une brisure, il y a une détérioration spirituelle qui a eu lieu. Notre relation avec Dieu est brisée. Nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. Et on le voit par la réaction immédiate d'Adam. Dieu qui descend, Dieu vient voir dans le jardin et vient chercher Adam. Et qu'est-ce qu'Adam fait? Il se cache de Dieu. Déjà là, l'impact est immédiat. Il se cache de Dieu. Il y a une séparation qui est là entre lui et Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il a peur de Dieu. Il se cache. Et c'est l'isolement spirituel, la détérioration spirituelle. C'est comme une pompe à essence. Depuis l'an 2000, toutes les voitures roulent sur du sans-plomb. Mais toi, un matin, tu décides, non, sais-tu, moi, je suis pas mal tanné de payer cher comme ça pour du sans-plomb. Je vais mettre d'autres choses. Je vais mettre un autre carburant pour ma voiture. Ça devrait marcher. Mais non, parce que vois-tu, ta voiture n'a pas été fabriquée pour fonctionner avec une autre sorte de carburant. Elle est fabriquée, elle a été créée pour fonctionner avec du sans-plomb. Alors, qu'est-ce qui va arriver si tu mets un autre carburant? C'est qu'après un certain temps, ta voiture commence à se détériorer. Il va y avoir des dépôts qui commencent à s'accumuler à l'intérieur, de l'encrassement, parce que la voiture n'a pas été créée, construite pour fonctionner avec d'autres types de carburants. La vie de la voiture va être affectée, la durée de vie va être affectée, elle va être écourtée. Et c'est à le point, d'ailleurs, qu'a soulevé C.S. Lewis dans son livre « Les fondements du christianisme ». Voici ce qu'il dit. Il dit « Dieu nous a fait, nous a inventé comme un homme invente une machine. Si une automobile est faite pour fonctionner à l'essence, elle ne fonctionnera convenablement avec aucun autre carburant. Dieu a voulu que la machine humaine fonctionne avec lui-même comme moteur. Il est le combustible que notre esprit doit brûler ou la nourriture prévue pour lui. Il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi il ne sert à rien de demander à Dieu de nous rendre heureux selon nos propres conceptions. Et la machine cale. Elle semble fort bien démarrer, avancer de quelques mètres, mais elle tombe en panne peu après. N'essaie-t-on pas de l'alimenter avec un mauvais carburant? Voyez-vous, l'homme veut fonctionner sans le carburant pour lequel il a été créé. La conséquence, c'est la détérioration, notre détérioration spirituelle. La Bible dit que dès l'instant que nous avons choisi d'être le maître de notre propre vie, que nous avons balancé Dieu, tassé Dieu, on a commencé à connaître la détérioration intérieure. Donc, nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. Voilà la conséquence, première conséquence du péché, lorsque le péché est entré dans le monde, nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. C'est la détérioration spirituelle. Des dépôts commencent à s'accumuler à l'intérieur de notre cœur, notre système s'encrasse, nous sommes séparés de Dieu. Alors, quelle est la première conséquence du péché? Eh bien, l'homme est séparé de Dieu. C'est le premier cercle à l'intérieur. La détérioration spirituelle, l'aliénation de Dieu. Le deuxième cercle, c'est la détérioration psychologique. En d'autre mot, toute sa raison d'être, son identité, qui je suis, pourquoi j'existe, pourquoi je suis ici sur Terre, toute cette notion-là de pourquoi je suis ici, mon identité a été chambardée. Je ne suis plus en harmonie avec Dieu et je ne suis plus en harmonie avec moi-même. Toute la perception de soi en est affectée. Voici Adam, il vit au paradis. Ce n'est qu'après avoir péché, après avoir voulu être son propre maître, qu'il commence à avoir peur. Il a des peurs. Ça l'affecte sa psychologie, là, ses émotions. Il commence à connaître la peur. Et c'est ce qui arrive. Il n'est plus en harmonie, ni avec Dieu, ni avec lui-même. Ses relations, son identité. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et l'un découle de l'autre. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, alors que nous avons été créés pour lui, on commence à avoir des problèmes d'identité, d'anxiété, de dépression, parce qu'on est privé du vrai sens de la vie. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. Le théologien Roland Clear donne un schéma ici qui nous explique des conséquences de la faute, du péché. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant la chute d'Adam, ce qui arrive, c'est que Adam est en harmonie avec Dieu, mais à cause de son péché, il n'est plus en harmonie avec Dieu. Il est même esclave de Satan. Il est devenu esclave de son péché. Il est pris, il est pogné. Et ça, c'est l'une des conséquences. nos problèmes psychologiques découlent vraiment de la chute. Alors, le péché a détérioré notre relation avec Dieu et a détérioré notre perception de nous-mêmes aussi, toute notre identité, notre image et tout ça. Tout ça a été affecté. On n'est plus en harmonie avec nous-mêmes. Alors, non seulement le péché nous a séparés de Dieu, il a affecté également notre identité, mais nos relations avec les autres aussi ont été affectées. On n'est même plus en harmonie avec les autres. Et là, ça a commencé à rentrer, les guerres, la violence, les problèmes familiaux, le mariage, les divorces et tout ça. Le problème les uns avec les autres, toute cette question des uns des autres a été affectée par notre péché. Ça, c'est le troisième cercle des détériorations sociales ou relationnelles. Dès qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Avant, il y avait une beauté, une intimité qui était pure, qui était intègre, qui était belle, qui avait une innocence qui était là. La communication était parfaite entre les deux. Mais la minute, dès l'instant qu'ils ont senti le besoin de se cacher de Dieu, le péché est entré, évidemment, ils se sont sentis le besoin, ils ont senti le besoin de se cacher de Dieu. Ils ont également senti le besoin de se cacher l'un envers l'autre. Ça a eu un impact dans leur relation l'un avec l'autre. Et c'est ce que nous enseigne Genèse chapitre 3. Ils avaient honte. Ils se sentaient vulnérables. Parce qu'on s'est caché de Dieu, nous avons besoin de nous cacher les uns des autres. Parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes également séparés de nous-mêmes et séparés des